VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 20 février 2017, en direct de Washington. Pour commencer, les titres.
Au Congo-Brazzaville, la société civile veut une enquête indépendante sur la mort en détention du colonel Marcel Tsourou. Il avait été incarcéré pour atteinte à la sûreté de l'État.
En République démocratique du Congo voisine, des élus des trois provinces du Kasaï accusent les autorités de privilégier une solution militaire aux violences dans leur région.
Burundi, le médiateur Benjamin Mkapa veut un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour discuter des obstacles au processus de paix.
Un attentat à la bombe a fait 34 morts et plusieurs blessés hier à Mogadiscio, Al-Shabaab soupçonné.
En Irak, la bataille pour reprendre l'ouest de Mossoul au groupe État islamique entre dans sa deuxième journée.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition et la société civile attendent d'en savoir plus sur la mort vendredi en détention du colonel Marcel Tsourou, ancien numéro 2 du Conseil national de sécurité. Il était incarcéré depuis 2014 pour atteinte à la sûreté de l'État. Selon un communiqué du directeur central des services de santé des armées, Pascal Ibata, le colonel Marcel Tsourou est mort des suites d'un arrêt cardio-respiratoire. Timothée Donangmaï a joint à Brazzaville Trésor Nzila, président exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Il y a le flou qui règne autour du décès de Marcel Tsourou et nous pensons que pour plus de transparence, le gouvernement doit accepter la mise en place d'une commission d'enquête indépendante.
Selon les autorités, Marcel Tsourou est décédé des suites de problèmes médicaux.
Ça a été quand même trop rapide. Aucune expertise n'a été menée. Ils ont conclu que c'est un arrêt cardiaque. Bon. On peut bien le voir. Maintenant que nous demandons une vraie expertise médicale et une enquête indépendante, je pense que s'ils n'ont rien à se reprocher, ils doivent accepter la mise en place d'une commission d'enquête indépendante.
Quelle a été la réaction de la famille du défunt?
La famille du défunt déplore la mort de leurs parents. Ils sont en train de s'organiser pour prendre une position par rapport à ça. Mais je pense que Marcel Tsourou était assisté par des avocats. Ces avocats ont pris position. Je pense que c'est aussi la position de la famille. Les avocats demandent la mise en place d'une commission d'enquête indépendante.
En République démocratique du Congo, des élus des trois provinces du Kasaï accusent les autorités de privilégier une solution militaire aux violences qui embrasent leur province. Des affrontements qui ont éclaté dans le Kasaï central en septembre entre la milice du chef coutumier Kwame Nsapu, tué le mois précédent, et les forces de sécurité se sont étendues au Kasaï oriental et occidental. La réaction de Claudel Lubaya, député de l'opposition, joint à Lubumbashi.
Les autorités ne font pas encore assez d'efforts jusque-là pour identifier la cause réelle du problème. Ils ne font aucun effort pour apporter des solutions. Jusque-là, les autorités se contentent juste d'une solution cosmétique, mais qui n'arrivent pas à trouver la voie de paix pour la province du Kasaï central, avec ce débordement vers le Kasaï, vers le Kasaï oriental, et peut-être demain on parle encore de la Lomami et consorts.
Qu'est-ce qui a été proposé à ce sujet?
D'abord, il faut que le gouvernement cesse de penser que c'est seulement par la violence qu'il pourra résoudre ce problème, mais plutôt qu'il opte pour la voie du dialogue. Mais ce dialogue-là aussi, pour qu'il ait lieu, il faut que le gouvernement s'engage à pacifier la province et s'engage à reconforter la population, mais aussi à se réconcilier et à remettre la dépouille mortelle du chef qui avait institué le chef communal Sapou à sa famille en vue de ses obsèques conformément à la coutume. Il a été également proposé au gouvernement qu'il prenne un certain nombre de mesures de réparation. En même temps aussi, qu'il réhabilite les infrastructures scolaires, sportives et autres qui ont été détruites par le fait des affrontements qui ont commencé depuis août 2016.
Kwame Nsapu au Kasaï, conflit communautaire entre pygmées et bantous au Tanganyika et dans une moindre mesure Nemwanda Nsemi au Congo central. Le gouvernement congolais dit pour sa part vouloir privilégier le dialogue pour trouver des solutions à ces conflits qui ont fait plusieurs morts et dans lesquels on reproche aux forces de l'ordre un usage disproportionné de la force. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Shadary Ramazani, l'a dit à Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous privilégions d'abord l'approche politique. Contact interpersonnel, contact entre différents groupes communautaires, mais également on va organiser, on a déjà commencé des bazars communautaires pour écouter les uns les autres et trouver des solutions par rapport à leurs revendications, revendications des postes au niveau coutumier, revendications au niveau des familles régnantes, ainsi de suite. Chez les Pygmées, ils réclament une certaine émancipation. Il faut les écouter officiellement. L'Académie va s'ouvrir bientôt un grand forum organisé par la province. On a invité beaucoup de personnalités de Kinshasa. Je crois que c'est ce qu'on va faire. L'approche militaire ou la police peuvent intervenir pour, n'est-ce pas, appuyer l'approche politique, qui est l'approche que nous avons mis en exergue, mais également l'approche judiciaire doit intervenir pour justement arrêter les hors-la-loi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'offensive des forces irakiennes pour reprendre à l'organisation État islamique la partie occidentale de Mossoul entre lundi dans sa deuxième journée. La veille, elles avaient reconquis des positions au sud de la ville, dernier bastion des djihadistes en Irak.
Le vice-président américain Mike Pence rencontre aujourd'hui à Bruxelles les dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN. Il termine un voyage officiel en Europe au cours duquel il s'est employé à rassurer ses partenaires historiques des États-Unis sur les positions du président Donald Trump. Monsieur Pence a souligné à plusieurs reprises s'exprimer au nom de Monsieur Trump. La nouvelle administration républicaine est perçue en Europe comme isolationniste, nationaliste et beaucoup moins attachée aux liens transatlantiques que les précédentes. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guériec.
Le Sénégal exhorte ses pêcheurs à ne plus violer les eaux mauritaniennes. Mise en garde lancée suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation mauritanienne concernant les pêcheurs étrangers. Des pêcheurs sénégalais affirment que des gardes-côtes mauritaniens leur ont récemment tiré dessus, blessant certains. Blocage du cacao en Côte d'Ivoire. Le groupement des négociants ivoiriens salue les actions menées par le Premier ministre et le gouvernement, estimant qu'il ne ménage aucun effort pour soutenir les producteurs face à la crise causée par des défauts provenant de la spéculation de blocage direct. Le GNI attire l'attention du Conseil Café Cacao sur l'urgence de rassurer au plus vite les marchés financiers sur la situation des défauts de spéculation en Côte d'Ivoire qui provoquent la chute du cours international du cacao en raison de l'absence d'informations précises sur l'ampleur du problème. Les villes africaines sont vouées à jouer un rôle capital dans la croissance de leur pays. Dans un rapport sur l'urbanisation en Afrique, la Banque mondiale affirme notamment que pour accroître la compétitivité des villes, il est indispensable d'améliorer la vie des citadins et des entreprises en investissant vigoureusement dans les infrastructures et en réformant les marchés fonciers.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football avec la Supercoupe de la CAF et le sacre historique du Mamelodi Sundowns face au tout-puissant Mazembe.
Oui, victoire 1-0 à Pretoria des Sud-Africains vainqueurs de la Ligue des Champions grâce à un pénalty du Brésilien Nascimento à la 83e minute. Un but qui est venu concrétiser la domination des Sundowns sur la seconde période. Mazembe, tenant de cette Supercoupe, regrettera longtemps son énorme occasion de la 20e minute par Ben Malongo et qui aurait pu changer le cours du match. Pamphile Mihayo, l'entraîneur des Corbeau apprécie le match.
Ce match, nous l'avons bien entamé, nous l'avons pratiquement pour moi bien fini parce qu'on a quand même bien joué par rapport au temps de préparation. Et puis, ce qui a manqué, c'est qu'on a fait que des préparations, on n'a pas fait beaucoup de matchs de préparation de haut niveau. Quoi. Sur le plan du jeu, il n'y a pas eu de concrétisation par rapport aux deux, trois occasions de but qu'on a eues et aussi à la remontée du bloc parce qu'on s'est retrouvé avec deux blocs, un bloc très haut et un bloc très bas. Donc, l'adversaire a profité de cela pour jouer vite les contres parce qu'entre les deux blocs, il n'y avait pratiquement personne au milieu.
Pamphile Mihayo, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe de Lumumbashi au micro de Thierry Kambundi. De son côté, le club de Pretoria, déjà champion d'Afrique pour la première fois de son histoire, parachève donc son triomphe. Retenez que c'est seulement le deuxième club du pays à obtenir cette Supercoupe après les Orlando Pirates en 1996.
Tout en bas de l'échelle continentale, le premier tour retour des Coupes africaines des clubs ont aussi eu lieu pendant le week-end.
En Ligue des champions d'abord, qualification de Oroya, vainqueur des Sénégalais de l'US Gorée 2-1. Les Guinéens, auteurs d'un nul 0-0 à l'aller. Qualification également des Léopards de Dolisi. La victoire 2-1 à domicile des Camerounais de l'US Loum n'a pas suffi puisque les Congolais l'ont emporté 1-0 à l'aller. Le but marqué à l'extérieur a donc permis au club de Dolisi de passer en 16e de finale, tout comme les Libyens d'Al Ahly de Tripoli. Par contre, c'est fini pour le Stade malien, éliminé par les Libériens de Barak Nyung. Après avoir fait leur retard du match aller, les Maliens ont plié lors de la séance des tirs au but 8-9.
Autre résultat est la qualification des Camerounais de Coton Sport de Garoua.
Exactement, les Camerounais, une fois vainqueurs des Sud-Soudanais d'Atlabara 4-1 après l'avoir emporté 2-0 à l'aller. Ça passe également, entre autres, pour les Soudanais d'Almeriek, des Tanzanais de Young Africans, des Marocains de Fus de Rabat et des Ivoiriens de l'AS Standard, malgré leur défaite de 3-1 à Niamey face à l'ASFAN. Leur victoire 3-0 à domicile leur a bien servi. C'est fini en revanche pour les Rwandais d'Apierre, battus 1-0 chez eux par les Zambiens de Zanaco. Il y avait 0-0 à l'aller.
Élysée, l'AS Vita Club sera bien présent au second tour.
Oui, Idrissa, le club de Kinshasa, déjà vainqueur de Royal Léopard à l'aller 1-0, a récidivé hier à domicile, cette fois 3-1. Un doublé de Tanguy Etekiama et un autre de Yannick Bangala. Réduction du score côté Royal de Sabanze. Une qualification méritée selon Florent Ibengue, l'entraîneur de Fay Club, qui fait sa lecture du match. Il est au micro de Thierry Kamboudi de Top Combo FM, notre radio partenaire.
Nous, on n'a pas pensé qu'on allait gagner 5-0 aujourd'hui. On savait que l'adversaire était difficile. Et pour le contourner, il fallait conserver le ballon. C'est ce qu'on a fait en première mi-temps. Ensuite, c'est l'impatience. Alors que c'est nous qui menions 1-0, il fallait juste continuer comme ça. Et on a repris en deuxième mi-temps, sur le même credo, en solidifiant un petit peu la défense. Parce qu'on commençait à trop leur laisser des espaces. Et en conservant le ballon, ils se sont fatigués. On a pu avoir des décalages et marquer. Quant à la suite, on verra ce qui va nous être proposé entre cette équipe ivoirienne ou gambienne. Et puis on va les étudier pour jouer de la meilleure façon possible et pour nous retrouver en quart de finale.
On reste en RD Congo et qualification de FC Renaissance en Coupe de la CAF.
Oui, après le nul 0-0 à Libreville la semaine dernière, les Oranges et Verts de Kinshasa ont réussi à battre les Gabonais d'Akanda 1-0 et se qualifient pour le second tour où ils vont affronter le Mouldia d'Alger. Les Algériens ont eu raison des Ghanéens de Béchem United 4-1 après avoir perdu 2-1 à l'aller.
Pour le reste, ticket pour les 16e de finale validés pour deux clubs camerounais.
Effectivement, Idrissa, APGS et Young Sport Academy de Babenda. APGS 7 battu 2-1 chez les Sénégalais de Niari Tali profite de son succès du match aller à domicile 1-0. Quant aux académiciens de Yossa, ils ont renversé leur situation à domicile face aux Éthiopiens de défense en s'imposant 2-0 après une défaite initiale 1-0. Parmi les autres qualifiés, notons entre autres les Burundais de Messager et des Ivoiriens de Gagnoa. Ça passe aussi pour les Sud-Africains de Platinum Star, tout comme les Ougandais de Viper. De même pour les Kenyans d'Ulenzi, au tir au but devant les Libyens d'Al Hilal de Benghazi. A l'inverse, fin de parcours pour les Congolais de Kara. Leur succès 2-0 sur les Marocains de Fès est insuffisant puisque battu à l'aller 3-0. Et pour finir, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA, le championnat nord-américain de basketball.
L'équipe de la conférence Ouest a remporté le All-Star Game face à l'équipe de la conférence Est 192-182 dimanche grâce aux 52 points d'Anthony Davis, nouveau record dans ce match de gala opposant les meilleurs joueurs de la NBA. Mais l'action la plus saluée de la soirée a eu lieu après seulement 6 minutes de jeu. Kevin Durant a fait une passe décisive pour Russell Westbrook, son ancien coéquipier à Oklahoma City, qui ne lui parlait plus depuis que Durant a rejoint Golden State.
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Lutte contre le terrorisme au Cameroun, les organisations non gouvernementales locales dénoncent encore des cas de violation des droits de l'homme, accusant notamment le gouvernement et certains éléments de l'armée ainsi que la justice camerounaise. Le gouvernement camerounais rejette ces accusations. Emmanuel Jules Tape, notre correspondant sur place, fait le point.
La riposte du gouvernement camerounais face aux revendications des enseignants, avocats et populations dans les zones anglophones du Cameroun a été accompagnée des cas palpables de violation des droits de l'homme. Cyril Roland de Béchon, directrice exécutive de l'ONG camerounaise Nouveaux Droits de l'Homme, a tenu à le souligner au cours d'une rencontre avec la presse nationale à Yaoundé.
Quand un ministre dit qu'on a coupé l'internet et que c'était sciemment qu'on l'a fait parce qu'on ne peut pas laisser les gens communiquer, mais c'est clair qu'il est en train de violer le droit à la liberté d'expression. Quand on décide de relâcher une vingtaine de personnes, ça veut dire qu'on admet qu'on a arrêté massivement des gens. Dans un pays sérieux, les choses ne se passent pas comme ça.
D'autres ONG camerounaises affirment que le prétexte de la lutte contre le terrorisme fait prospérer les exactions même au sein de l'armée camerounaise. Maximilienne Ngombe, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale.
Au niveau de l'extrême nord, il y a tous les jours des exactions, surtout des éléments du bataillon d'intervention rapide. C'est nous qui avons dit qu'il y avait eu le ratissage des villages comme doublé et il y avait eu 130 morts. Le gouvernement avait reconnu 25. Les noms n'ont jamais été publiés. Depuis que nous avons essayé de documenter ces cas-là, l'armée a fait plus attention.
Preuve que le motif de lutte contre le terrorisme a altéré les droits de l'homme au Cameroun, trois jeunes élèves ont été condamnés en novembre 2016 à 10 ans de prison pour avoir partagé un SMS de plaisanterie en rapport avec la secte Boko Haram. Pire encore, les défenseurs des droits humains s'insurgent contre la déportation des personnes interpellées ou inculpées loin de leur région d'origine, soit pour être interrogées ou jugées. Maître Sim est avocat au barreau du Cameroun.
Comment on explique que moi je vis à Bouya, l'autre à Bamenda, et qu'on nous poursuive à Yaoundé dans un même poste pour la même infraction? Comment est-ce qu'on a pu être co-auteur d'une infraction étant à une telle distance?
Sur la question de la compétence nationale du tribunal militaire de Yaoundé, le ministre camerounais de la communication oppose un argument de droit. Issa Tirouma Bakari.
Au terme de la loi du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire, le tribunal militaire de Yaoundé est une juridiction de compétence nationale, habilité à exercer ses attributions sur l'ensemble du territoire national en cas de menace grave à l'ordre public, à la sécurité de l'État et d'actes de terrorisme.
La dernière sortie des ONG camerounaises pourrait encore corser l'état des rapports parfois tendus entre les pouvoirs publics et ses associations. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Au Tchad, le délai de détention prévu par la loi est largement dépassé pour la plupart des détenus du centre de détention principal de N'Djamena. Le constat a été fait au cours d'une visite du nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains pendant le week-end, nous dit notre correspondant André Kotmadjingar.
Visiblement abattus du fait de leur surpopulation, les détenus trouvent en ce nouveau ministre de la Justice un libérateur. Tout le monde cherche désespérément à lui expliquer les conditions de sa détention. Certains pensionnaires se disent être victimes de la lenteur judiciaire. D'autres, par contre, à défaut de plaignants, croupissent à la maison d'arrêt pendant des années sans être situés sur leur sort. Suivez ce qui ressort de l'entretien que le ministre de la Justice, professeur Ahmad Mohamed Hassan, a eu avec quelques-uns.
Tu as quel âge ?
15.
15 ans ?
Ouais.
Non, tu dépasses 15 ans.
15 ans.
Tu es sûr, mon fils ?
Sûr.
Tu as volé chaussures ?
Ouais.
On ne t'a pas jugé depuis 6 mois ?
Pas jugé.
Et tu es devenu sur à la maison d'arrêt.
Ouais. Paraît-il qu'on a agressé une personne et on a dit que c'est nous les agresseurs.
Donc c'est une accusation.
C'est une accusation, absolument. Personne ne m'a amené à l'hôpital 2014.
Depuis 2014, tu es en détention.
Je suis en détention ici.
Et on ne t'a pas jugé.
Personne ne m'a jugé.
Le ministre Ahmad Mahamat Hassan prend l'engagement de faire en sorte que tous les prévenus qui sont en séjour prolongé à la maison d'arrêt soient situés sur leur sort dans un délai raisonnable.
La grande majorité ayant un statut encore de prévenu ou d'inculpé. Alors il y a un peu plus de 500 qui ont été jugés et condamnés. Ça veut dire qu'il y a quelque part la preuve de la lenteur judiciaire ou des mécanismes de la recherche des preuves. Et donc ce dysfonctionnement, nous allons y remédier. Je verrai avec les magistrats quelles sont les difficultés pour cette lenteur judiciaire, pour cette surpopulation des gens ici. Si les trois principes juridiques ne sont pas mis en cause, il faut que le principe de la liberté soit retenu et que la détention soit une exception.
La réaction du syndicat des magistrats du Tchad au sujet de la lenteur judiciaire évoquée par le ministre ne se fait pas attendre. Pour le secrétaire général du dit syndicat, Djonga Harafi, les magistrats ne sont pas responsables de cette lenteur.
Nous, au niveau du syndicat, nous avons par exemple proposé qu'il y ait la comparution immédiate, c'est-à-dire tous les jours. Dès que les prévenus sont déférés, il va falloir directement les juger. Nous avons également dit qu'il faudrait mettre en place le système de flagrant délit quotidien. Aujourd'hui, nous ne disposons pas assez de salles d'audience pour permettre que les dossiers soient évacués rapidement. Construisez-nous des salles d'audience en quantité et demandez-nous le résultat.
Transformé en maison d'arrêt en décembre 2011, ce local d'une capacité de 300 places compte aujourd'hui 2032 condamnés et prévenus. Nonobstant à la promesse du nouveau patron de la justice, les détenus ont pris à partie la délégation, dépossédant certains visiteurs de leurs objets matériels, parmi lesquels un journaliste. André Kodma Dingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Au Mali, la mise en place des autorités intérimaires a été reportée parce que la CMA n'a pas voulu que la délégation gouvernementale se rende à Kidal. Les ex-rebelles sont opposés à la nomination du nouveau gouverneur qui est proche de la plateforme. Et puis dans les régions de Gao et Tombouctou, il y a eu des marches pour contester le choix des personnes désignées comme membres des autorités intérimaires. Les détails avec Kassim Traoré.
Toute la ville de Tombouctou était dans les rues. Les marcheurs dénoncent la désignation non consensuelle des autorités intérimaires à Tombouctou et Taoudéni. Egamar Ag, l'un des marcheurs de Tombouctou.
On est d'accord pour les accords d'Alger, on est d'accord pour le Mali uni, on est d'accord pour une Mali sans exclusion, pas d'accord pour ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire les commissions intérimaires sont choisies. On a l'impression que ce qui se passe, c'est des clubs. Tombouctou, c'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Si l'État ou la CMA a d'autres populations qui n'ont pas nous, ils n'ont qu'à laisser travailler avec ces populations, nous foutre la paix chez nous. On est victime de le fait qu'on est, on reste malien, on est victime de ça, donc le Mali a interpellé à travers ça.
Le président du parti Sadi trouve que la mise en place des autorités intérimaires est une bonne chose. Honorable Oumar Mariko.
Les autorités intérimaires, il faudra corriger très rapidement cette situation pour qu'elle soit mise sur place pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est de permettre le retour des populations dans les camps des réfugiés qui constituent une véritable menace pour l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes là-dedans qui ne comprennent pas, qui sont en train de grandir, ils en ont qui ont au moins une dizaine d'années dans un esprit qui n'est pas un esprit patriotique malien. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire en sorte que les services sociaux de base retournent dans les zones qui sont déjà des zones vides depuis de longues dates de santé, d'école, etc., etc. Pour ces deux raisons-là, aucun sacrifice n'est grand pour que les autorités intermédiaires soient installées.
À Bamako, les branches politiques du CJA et du CMFR2 ont organisé une conférence de presse pour rejeter les autorités intérimaires. Abaye Ag Mohamed, secrétaire général du Congrès pour la justice dans l'Azawad CJA.
Cette conférence de presse à laquelle vous avez participé ce matin est une continuité. Elle est là aussi pour relayer les manifestations à Tombouctou, Goundam, probablement dans la région de Gao. Donc, il faut lire clairement les préoccupations des communautés, les prendre en compte. On ne doit pas être prisonnier d'un accord sous couvert de la légalité, etc. On peut modifier cet accord. Et l'État malien est responsable en premier lieu de cet accord.
Tombouctou et ses cinq cercles n'ont pas été contactés avant la désignation des membres des autorités intérimaires. C'est ce que nous explique Alassane Abba, ancien député, non moins membre du bureau du CJA.
Cinq cercles qui n'ont pas été concertés ni de loin ni de près. Il semblerait que c'est suivant la fantaisie des hommes vivant ailleurs que le choix a été fait. Si ce n'est pas fait, nous dirons non. Et si ça doit va nous conduire même à la prise des armes, nous allons nous assumer parce qu'on a compris, on l'a dit, que notre État n'entend que les plus de canons. L'État malien est sourd. L'État malien, ils ne sont pas objectifs, ils ne sont pas justes parce que pour eux, la justice, ça veut dire ce qui les baillonne, ce qui les talonne, ce qui leur empêche de dormir, ce qui leur donne des soucis.
En plus des marches de contestation, la ville de Kidal a aussi refusé de recevoir la délégation gouvernementale qui devrait en principe procéder à l'installation des autorités intérimaires. Parce que dans la foulée de cette mise en place, le gouvernement malien a procédé à la nomination du nouveau gouverneur de Kidal qui serait un proche de la plateforme Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Sénégal, le seul appareil de radiothérapie du pays est en panne. Cette machine de seconde main était en service depuis 1989 et 28 ans après, il demeurait le seul appareil encore disponible pour traiter les malades du cancer. Face à la polémique suscitée par cette situation, l'État sénégalais a pris des mesures d'urgence et la société civile a initié un élan de solidarité pendant que les associations d'appui aux malades tentent d'éduquer le public de Dakar. Notre correspondante Sédina Abagay.
Les malades du cancer seront désormais soignés au Maroc, le temps que le Sénégal puisse à nouveau disposer d'appareils de radiothérapie. Le docteur Fatma Guenoun, présidente de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, apporte des éclaircissements.
Les malades étaient dans un désarroi, mais le ministère de la Santé, l'État, a pu calmer les choses parce qu'il y a 3 appareils qui sont commandés et donc on attend d'ici 6 à 1 an. Et l'État s'est engagé pendant toute cette période, de prendre en charge tous les malades qui seront évacués.
Le docteur Fatma Guenoun estime cependant que les autorités doivent faire plus pour les malades du cancer.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de radiothérapie, mais on oublie les malades qui, avant la radiothérapie, ont un parcours très dur, un parcours du combattant. Parce que quand tu dois débourser 900 à 3 millions et que ton mari et SMICA, et que toi tu travailles pas, vous avez beaucoup d'enfants, donc les loyers, tout ça, c'est un drame que vivent les familles sénégalaises qui ont un parent atteint de cancer.
Pour atténuer la souffrance des patients, un vaste élan de solidarité s'est formé de manière spontanée. Son but, récolter 200 millions pour les malades. Awasek en est l'une des initiatrices.
Nous sommes juste des citoyens, pour vous dire qu'on ne se connaissait pas du tout, on s'est connus sur les réseaux sociaux, sachant que la radiothérapie est du ressort de l'État qui doit s'en charger. On s'est dit comment aider ces malades. Même si ces malades doivent être évacués, nous apportons notre soutien.
Soutenir les malades du cancer, c'est le but de l'association Cancer du Saint-Sénégal. Cette structure regroupe depuis plusieurs années des survivantes du cancer qui mettent leur expérience au service de la lutte contre cette maladie.
On a tellement stigmatisé le cancer. Le regard des gens vers une personne qui a un cancer, c'est tout de suite la personne va mourir. Et alors, nous voulions dédramatiser cette maladie-là, que celles qui sont dans la maladie puissent le vivre autrement que dans la souffrance et dans la douleur.
Au Sénégal, la panne de l'unique appareil de radiothérapie du pays a éveillé la conscience collective sur les effets néfastes du cancer. Pouvoirs publics et populations se mobilisent désormais pour offrir une meilleure existence aux personnes atteintes par le cancer. À Dakar, pour la Voix de l'Amérique, Sédina Abagay.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.